Je salue le président de la Fondation, le père Marc Donzet. Alors, mon cher Marc, si vous me permettez cette apostrophe ou cette adresse amicale, je suis heureux de vous recevoir ici ce matin. Maurice Zindel, vous l'avez connu de son vivant. Un peu, et il a été, je crois, un peu le fil conducteur de votre vie sacerdotale. Séminariste déjà, vous l'aviez rencontré, si je ne m'abuse. Ordonné prêtre en 1972, vous êtes aussi docteur en théologie. Et votre thèse, consacrée à Maurice Zindel, a été publiée en 1981 sous le titre « La pensée théologique de Maurice Zindel, pauvreté et libération ». Vous avez aussi été supérieur du séminaire de Fribourg, vous avez été professeur à l'université de Fribourg et vous avez aussi été vicaire épiscopal de la partie francophone du canton de Vaud en Suisse. À présent, retraité, vous poursuivez votre compagnonnage avec Maurice Zindel. Au sein de la Fondation, vous avez entrepris la publication des œuvres complètes de Maurice Zindel, dont le premier ouvrage, ou le premier volume, paraîtra l'an prochain, si je ne me trompe. Si tu le veux, et si tout va dans le sens que vous souhaitez, j'en suis sûr, puisque vous l'avez déjà commencé, je le sais. Alors, vous ne cessez de parler de Maurice Zindel. Vos interventions ont pour but, et vous vous efforcez de le faire mieux connaître, d'expliquer sa pensée sur des questions parfois difficiles, comme le thème que vous allez aborder maintenant, l'énigme du mal. Nous avons préféré, parce que vous nous avez laissé choisir le thème, nous avons préféré parler d'énigme du mal et non pas de mystère, le mystère étant sans doute le mot le plus souvent usé ou employé pour parler du mal. Pourquoi avons-nous choisi énigme ? Parce qu'une énigme comporte nécessairement un sens caché auquel elle renvoie celui qui cherche à la résoudre. Alors, mon cher Marc, vous allez, j'en suis sûr, nous aider à découvrir ce sens. Je vous donne donc la parole.
Monsieur le Président, cher Jean-Marie, merci de votre accueil. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de pouvoir partager ces réflexions avec vous que j'intitulerai « Dieu et l'énigme du mal ». Avant cela, j'aimerais vous faire une petite annonce. J'ai été chercher il y a une semaine chez l'imprimeur ce petit ouvrage, Maurice Zindel, la figure lumineuse d'un mystique. C'est une conférence de l'abbé Gilbert Vincent qui fut le premier auteur d'un livre sur Maurice Zindel juste après sa mort en 75. Et puis des textes qu'on m'a demandé de choisir et de présenter. C'est joli, ça se met dans la poche, ça peut faire un petit cadeau. Et mon éditeur, c'est très intéressant cet éditeur, c'est les éditions Ouverture à Lausanne. C'est un éditeur de tradition protestante au départ, très œcuménique. Et j'étais content parce que ça permettra d'un peu acclimater Maurice Zindel dans le monde protestant aussi. Voilà. Il m'a dit qu'il fallait le vendre 12 euros. Et donc il y en a beaucoup là-bas. Donc vous pouvez acheter des cadeaux de Noël en nombre. Cette fois, ça devient sérieux. J'enrage quand on dit « Dieu permet le mal », clamait Maurice Zindel. La question du mal le taraudait. Pour moi, écrit-il, une longue et dure expérience m'a révélé tous les ressorts passionnels dont sourdit la comédie humaine, l'exhibitionnisme de la vanité, le goût du pouvoir, la cupidité toujours prête à trahir, l'appétit sauvage ou calculé du premier rang, la joie de nuire, le fanatisme et la mauvaise foi, la libido sexuelle et toutes les folies qu'elle entraîne, toutes les cruautés et toutes les rivalités qu'elle suscite, sans compter les fausses vertus où transparaît, en dépit de tous les camouflages, la satisfaction de soi. À ce portrait, sans concession, il faut ajouter que Zindel a traversé deux guerres mondiales, la misère sur les bords du Nil et les épreuves de l'exil. Avec angoisse, il se posait la question : l'homme peut-il exister dans cet océan dramatique ? Peut-il accéder à une dignité personnelle ? Ce que l'on disait de Dieu devant le problème du mal l'inquiétait tout autant. Si Dieu permet le mal, est-ce qu'il est fréquentable ? Est-ce qu'il est crédible ? Chez Zindel, donc, la question du lien entre Dieu et l'énigme du mal était à la fois existentielle et théologique. Et c'est aussi sous ce double aspect que je tiens à l'aborder, car cette question me concerne et nous concerne au profond de notre être. Qui d'entre nous n'est pas traversé d'une manière ou d'une autre par quelque émergence du mal ? Mais cette question, pour notre foi, requiert aussi un effort de pensée. Pourquoi le mal rôde-t-il en tous les recoins de l'humanité, voire de l'univers ? Et face à cette situation, où est Dieu et que fait-il ? D'une manière plus personnelle, je dois dire que cette question me touche beaucoup en lien avec Maurice Zindel, parce que en 1975, en janvier, il était venu faire une conférence à la paroisse Sainte-Clotilde à Genève, où j'étais petit vicaire, c'était mon premier poste de prêtre, et le thème c'était justement le chrétien devant le mal. Et ça m'a toujours impressionné et poursuivi. Une si forte conférence que d'ailleurs je l'avais reproduite in extenso dans l'humble présence. C'est dire son importance. Et c'était pratiquement l'une de ses dernières conférences, puisque à peine un mois plus tard, il avait eu un AVC qui l'avait rendu aphasique et qui l'avait conduit vers la mort. Trois convictions de cœur et de pensée dessinent la pensée de Zindel, ferme et originale à propos du mal. La première, Dieu est innocent du mal. La deuxième, mystérieusement, Dieu est la première victime du mal. Et la troisième, en Jésus-Christ, Dieu offre un contrepoids d'amour face au mal. Et j'aimerais ajouter un contrepoids d'amour vainqueur face au mal. Dieu innocent. Dans l'école théologique qui se fonde sur la métaphysique d'Aristote et qui fut largement dominante, il est logique, pour ne pas dire fatal, d'affirmer que Dieu permet le mal. En effet, Dieu est l'être, et tous les étant par participation, c'est-à-dire nous et tout le reste, ne peuvent exister que par lui. Il est la cause première et tout ce qui se produit advient sous la puissance de cette causalité, même s'il existe une autonomie relative des causes secondes, c'est-à-dire des relations de causalité intramondaine. De ce fait, le mal, qu'Aristote et saint Thomas d'Aquin désignent comme privation d'être, ne peut mordre sur l'être sans que la source de tout être le permette ou le laisse faire. Dans cette logique, Jacques Maritain a écrit un livre dont le titre est « Dieu et la permission du mal » et le cardinal Charles Journet écrit lui aussi que Dieu permet le mal, mais gêné, il met souvent le mot « permet » entre guillemets. Il l'emploie quand même. Pour Maurice Zindel, ce chemin théologique conduit à une impasse, puisqu'il contraint à affirmer cette pensée pour lui inacceptable que Dieu permette le mal. Dans une conférence mémorable que Gilbert Géraud a reproduite dans le livre Maurice Indels et pierres de fondation. Dans une conférence donnée à Genève en 1966, Zindel, avec un culot extraordinaire, fait la critique de cette pensée. Il affirme qu'Aristote n'a pas été intégré à la théologie, il a plutôt, je cite, « désintégré la théologie ». Il continue « Nous sommes restés contaminés par l'aristotélisme sous l'aspect d'une transcendance objet. Dieu est un immense objet en dehors de nous qui nous domine et qui nous écrase. » Très sévère, Zindel dit que sous l'influence d'Aristote, les docteurs chrétiens en sont arrivés à ceci, à voir dans le Dieu ineffable un Dieu refermé sur soi, un Dieu qui ne peut aimer que soi, un Dieu qui ne peut connaître que soi ou par soi, un Dieu qui ne peut jamais rien recevoir de personne, qui n'a besoin de personne, qui n'aime les êtres que pour lui-même, parce qu'il ne peut pas avoir une fin en dehors de soi. Bref, un Dieu extérieur. Et pas tellement intéressant. En disant ça, il pose avec une lucidité coupante le cœur de la question, quel Dieu, tout en reconnaissant que ces théologiens ont par ailleurs de nobles et précieuses considérations. Pour penser et dire que Dieu est innocent, il faut donc trouver un autre chemin. Le point de départ est tout simple. C'est le cœur de la révélation. Dieu est amour. Deux fois dans la première épître de Saint Jean. Donc, l'identité de Dieu, la texture même de l'être de Dieu est amour. L'amour n'est pas une qualité qui se surajoute à la splendeur de Dieu, c'est son être même. Or, qui dit amour, dit du même mouvement relation, partage, réciprocité, circulation de l'amour. Et cela se vit déjà dans l'être même de Dieu, tel que Jésus-Christ nous le révèle, car le Père aime le Fils aime le Père, dans l'éternel souffle de l'esprit d'amour. C'est le mystère de la Trinité, cœur de notre foi, c'est de là que nous devons partir pour faire œuvre théologique. À cause de la révélation trinitaire, nous ne pouvons pas nous contenter de faire théologie avec une philosophie de l'être. Il faut se tourner vers une métaphysique de l'amour et donc penser que la structure même de l'existence, au moins chez les êtres capables de penser de liberté et d'amour, donc nous, est à son ultime profondeur faite d'amour. Car nous ne sommes pas simplement des êtres auxquels se surajouterait d'une manière ou d'une autre l'amour. L'amour est déposé en nous avec ses exigences de rencontre, d'accueil, de consentement libre, de partage, de réciprocité. Et dans la pensée de Maurice Indels, cette métaphysique de l'amour reçoit un nom encore plus original. Il parle d'une métaphysique de la pauvreté. La pauvreté, prise dans un sens franciscain, n'est en aucune façon une indigence. Elle est désappropriation et don. Faire de l'espace pour accueillir et se donner dans la rencontre. Les deux mouvements de l'amour, puisque le partage demande à la fois l'accueil et le don. Et donc, une métaphysique de la pauvreté, c'est une métaphysique de la circulation de l'amour, et j'aime bien dire aussi de la danse de l'amour. Donc, Maurice Indels, pour affronter l'énigme du mal, part sans cesse du cœur de notre foi, c'est-à-dire du mystère trinitaire. Si Dieu est amour, il a créé l'homme par amour et pour l'amour, Avec l'homme, il a donc instauré une relation de partage et de réciprocité. Dieu donne en premier, et combien plus que nous, la vie, le mouvement, l'être et l'amour. Mais à son don, il attend que soit répondu par l'amour. Et cet écart de l'attente est l'espace de notre liberté. Car l'amour qui ne serait pas libre serait un travestissement. Pour parler le langage de la Bible, Dieu offre à l'homme une relation d'alliance. Zindel préfère un autre mot qu'alliance, lui il parle de nuptialité. C'est un mot plus fort parce que nuptialité marque clairement qu'il s'agit d'une relation d'amour entre personnes. Les alliances peuvent concerner d'autres choses. Si c'est vrai, l'homme porte une responsabilité, celle de répondre du creux de son être et de sa liberté à l'offrande d'alliance, de nuptialité que lui fait Dieu. Si sa réponse va dans le sens de la réciprocité de l'amour, c'est la paix, la joie, l'harmonie qui se mettent à chanter. Dans ce sens, l'homme, comme disait Bergson, est co-créateur. Mais son oui est nécessaire pour que la création trouve sa pleine harmonie. Mais si la réponse part dans le sens du refus de l'amour, parce que d'autres chemins paraissent préférables, alors s'introduit la disharmonie et du même coup le mal. Autrement dit, dans une vision d'amour, d'alliance et de nuptialité, il y a un espace où les hommes, voire les êtres spirituels, portent responsabilité. C'est donc la non-réponse à l'amour de Dieu qui fait entrer le mal dans l'espace de l'homme et de la création. Dans une théologie de l'amour et de l'alliance, il devient possible et même nécessaire d'affirmer que Dieu est innocent du mal puisque la porte de la disharmonie s'ouvre à partir du refus de l'amour par l'homme. C'est bien ce que suggère le génial chapitre 3 de la Genèse, qui pour Zindel est une formidable tentative d'innocenter Dieu du mal. Quelques leçons fondamentales sur ce chapitre 3. D'abord, quand Dieu crée, ce qu'il fait est bon, ce qu'il donne est même très bon, Genèse 1 et 2. Il est possible d'entendre en filigrane, même si le mot n'est pas employé, qu'il crée par amour et non pas pour manifester une sorte de toute puissance dominatrice. La tentation va s'insérer dans l'espace de liberté où se joue la réponse à l'offrande d'amour. La tentation consiste en un immense mensonge, celui de présenter Dieu non pas comme un partenaire d'alliance, mais comme un concurrent. Vous serez comme des dieux. À sa place, ment le tentateur. Mais pour ce faire, il faut transgresser l'harmonie établie par Dieu et symbolisée au milieu du jardin par l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui met la juste distance permettant entre l'homme et Dieu un face-à-face d'amour. Le tentateur, symbolisé par le serpent, dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va, représente l'énigme du mal. Et c'est bien qu'on parle d'énigme et pas de mystère, parce que mystère, moi je le réserve aussi à toutes les choses de Dieu. Parce que la question restera piquante, toujours, comme un cactus. Pourquoi, comment et d'où le mal s'est-il inséré dans le monde? La présence de l'énigmatique serpent montre que la réponse demeure en partie impossible, à tout le moins très difficile. C'est quoi ce serpent ? Alors, j'ai quand même eu une petite lueur que je vous partage en toute humilité. L'alliance d'amour se vit de personne à personne, dans un face-à-face, et non pas dans une fusion. Il y a, dans cet échange de regards, un espace où se joue la liberté. Le regard de Dieu est toujours présent comme amour, mais le regard de l'autre, qu'il soit homme ou ange, peut se détourner de la lumière et de la présence. Il peut se retourner vers soi-même et couper la relation. Finalement, le serpent ne symboliserait-il pas la possibilité d'illusion et de perversion de la relation dans cet espace où tout se joue, cette pensée étrange qu'un autre chemin est attirant, où l'homme, comme lassé de la splendeur divine, construirait sa propre lumière. C'est peut-être une petite anecdote, là. Un couple que je connais bien, qui a vécu longtemps ensemble, ils ont fait 3 enfants, et puis un beau jour, le mari, il est parti. Et puis en toute naïveté, je lui ai posé la question, mais je comprends pas, pourquoi tu es parti ? Parce que ma femme était trop parfaite. J'avais besoin de voir autre chose. Est-ce que le tentateur n'est pas en train de dire Dieu, il est tellement trop parfait, va voir ailleurs. C'est ça. Quoi qu'il en soit, la part de l'énigme va demeurer. Mais l'important, ce n'est pas l'énigme, c'est la manière de l'affronter. Je reviens à Genèse 3. La non-réponse à l'alliance introduit une perturbation de la relation entre l'homme et Dieu. L'homme se retrouve nu, déshabillé de la lumière, et le chemin vers Dieu devient errant et obscur, ne trouvant plus son but. Et cet aspect est symbolisé par la porte du paradis qui devient inaccessible, gardée par l'ange. Cette non-réponse introduit aussi une perturbation de la relation des hommes entre eux qui est manifestée, entre autres, par le crime de Caïn tuant Abel. Cette double perturbation introduit ce que Maurice Vindel appelle le mal moral, c'est-à-dire le non-respect de soi, de l'autre et de Dieu. Une troisième perturbation se produit encore, c'est toujours dans la Genèse, celle de la relation entre l'homme et le cosmos. Avec finesse, elle est symbolisée par 2 constats. L'homme, qui était debout, devient un homme courbé, bouffant la poussière de la terre pour pouvoir obtenir sa nourriture. Et la femme, enfante, désormais dans la douleur. Alors que cet acte, le plus créateur qui soit, devrait se vivre dans l'harmonie. Je vois dans ces 2 signes l'irruption de ce que Maurice Vindel appelle le mal cosmique. Alors je fais une petite note sur le mal cosmique parce que il cause beaucoup de préoccupations à Maurice Vindel et puis finalement aussi à nous. Vindel dit « Le cosmos semble indifférent aux valeurs de l'homme et de l'amour. Un tremblement de terre, un ouragan, un tsunami peuvent provoquer des dégâts épouvantables et engloutir des personnes. Et puis, des micro-organismes peuvent attaquer le cerveau. Et puis encore, dans la nature, le jeu paraît parfois bien cruel quand, par exemple, le lion se jette sur la gazelle. » Que donner comme éclairage à cette question du mal cosmique, sinon que D'après la vision de Genèse 3, l'infidélité à l'alliance perturbe le lien entre l'homme et le cosmos et introduit de la disharmonie au sein du cosmos lui-même. Certains trouvent que c'est exagéré de donner tant de responsabilités à l'homme, mais notre esprit n'est-il pas d'une grande puissance ? Dans son souci passionné d'innocenter Dieu, Zundel va plus loin encore. Il pense que la perturbation introduite par la rupture d'alliance de l'homme a comme reflué vers l'arrière et déstructuré le cosmos comme par avance, puisque par exemple, les lions bouffent les gazelles avant l'apparition de l'homme. Pour ma part, je ne crois pas à la réversibilité du temps. Ce qui importe, en fait, c'est le rapport entre l'homme et la nature à partir du moment où l'homme est advenu. Et donc, j'ai un autre chemin pour parler de ce mal cosmique. Deux chemins. Je pense que l'homme a perdu la sagesse de son rapport avec l'univers et qu'ainsi, il perturbe gravement l'univers et se met lui-même en danger. Comme vous savez, il exploite les ressources de façon éhontée, il pollue, il détruit les forêts, il s'installe dans des endroits dangereux où peuvent advenir des catastrophes. Toutes ces attitudes comportent des conséquences à large rayonnement et à long terme. Et en second lieu, je pense que l'homme a perdu sa capacité d'adaptation et de résistance aux éléments qui peuvent l'agresser. La porte s'est ouverte à la nuisance de certains rayonnements et de certains organismes. Et cela suffit, me semble-t-il, pour dire que le cosmos et l'homme ne sont pas en adéquation. Quoi qu'il en soit, pour Zundel, Dieu est innocent tant du mal cosmique que du mal moral, car il est amour, uniquement amour. C'est donc l'homme, et le cas échéant d'autres créatures spirituelles, qui portent responsabilité de l'entrée du mal dans le monde. Et dès lors, le monde et l'évolution s'en trouvent perturbés. À de rares moments, Teilhard de Chardin, scrutant ce qu'il appelle les scories de l'évolution, évoque un monde où il serait arrivé quelque chose et qui n'est donc pas dans l'état où il devrait être. Mais, à la fin du phénomène humain, il a ce mot terrible. « Necesse est ut scandala eveniant » Il est nécessaire que des scandales arrivent, car l'évolution entraîne d'inévitables ratés. Dieu, selon Teilhard, aurait donc créé le meilleur ou le moins mauvais des mondes possibles en évolution. Perspective inacceptable pour Zundel. Zundel pourrait souscrire à l'idée d'un monde auquel il serait arrivé quelque chose, mais qui ne soit pas du fait de Dieu. D'une certaine manière, peu importe ses explications et ses hypothèses, l'essentiel, quand nous considérons le mal cosmique, est en avant, comme l'a si bien exprimé saint Paul. Toute la création gémit en travail d'enfantement et la création, en attente, aspire à la révélation des fils de Dieu ou à la réconciliation des fils de Dieu. Romains 8. Dieu est innocent. Cette affirmation, est d'une importance capitale, car s'il n'est pas innocent, il devient infréquentable. Il faut se tourner ailleurs. S'il ne l'est pas, il provoque la révolte. Bielinski, révolutionnaire russe, écrivait qu'une seule larme d'enfant innocent est une démonstration de l'inexistence de Dieu. Dostoïevski met en scène Ivan Karamazov qui, voyant le châtiment cruel perpétré sur un enfant qui n'a commis qu'une innocente peccadille, se révolte et veut rendre son billet pour le paradis. Et Camus, dans La Peste, montre le caractère irrecevable d'un Dieu qui laisserait arriver un tel fléau pour ramener les gens d'Oran à la vertu. Voici un extrait du sermon terrifiant du père Panlou à Oran. Oui, l'heure est venue de réfléchir. Vous avez cru qu'il suffisait de visiter Dieu le dimanche pour être libre de vos journées. Vous avez pensé que quelques génuflexions le paieraient bien assez de votre insouciance criminelle. Mais Dieu n'est pas tiède. Ses rapports espacés ne suffisaient pas à sa dévorante tendresse. Il voulait vous voir plus longtemps. C'est sa manière de vous aimer, et à vrai dire, c'est la seule manière d'aimer. Voilà pourquoi, fatigué d'attendre votre venue, il a laissé le fléau vous visiter. Comme il a visité toutes les villes du péché depuis que les hommes ont une histoire. Quelle horreur ! Ce discours qui était si répandu. Non seulement Dieu y permet la peste, mais il l'envoie. Plus encore, son amour y est évoqué, mais c'est un amour jaloux et punisseur, un amour pervers, en un mot. Si le père Panlou avait raison, il ne resterait plus que le rejet de ce Dieu. Encore une fois, pour Maurice Zindel, Dieu est innocent, car le Dieu d'amour révélé par Jésus-Christ est don, miséricorde, tendresse, et uniquement cela. Dieu, première victime. Suffit-il que Dieu soit innocent? Certainement pas. Innocent et désengagé. Ce ne serait pas cohérent avec un Dieu de l'alliance et de la nuptialité. Pour pouvoir penser plus avant, nous pouvons nous laisser guider par l'expérience humaine la plus noble. Quand son enfant souffre, la mère, même si elle n'y est pour rien, souffre elle aussi. Quand l'être aimé est bafoué, son amant pâtit lui aussi sous le coup de l'offense. C'est donc une des qualités de l'amour que de ressentir le mal qui est porté à celui qu'on aime. Même les enfants comprennent cela au catéchisme et ailleurs. C'est pourquoi, en toute cohérence, Maurice Zindel ose affirmer mystérieusement « Dieu est la première victime du mal ». Dans un envol passionné, il s'écrie « Est-ce lui qui a condamné des millions d'hommes à cet enfer des servitudes matérielles qui les empêchent de respirer au-dessus de leur corps et de pressentir l'infini dans leur existence étriquée semble être la vivante négation? Est-ce lui qui a voulu qu'on pût mourir de faim sur une terre qui regorge de biens? Est-ce lui qui a livré les peuples à ce cloisonnement misérable qui les oppose en frontières comme des hordes rusées et féroces d'animaux sauvages? Est-ce lui qui a abandonné l'âme des petits-enfants à l'empreinte corrosive de l'erreur, de la haine ou du sectarisme, à toutes ces déformations monstrueuses qui constituent une captivité intérieure plus terrible que tous les esclavages visibles? Est-ce lui enfin qui a laissé se commettre cet attentat universel contre ce qu'il y a de plus sacré au monde, la liberté de l'esprit? Qu'un afflux ininterrompu de suggestions mentales ne cesse de rendre étranger à lui-même. Non, ce n'est pas Dieu, assurément, ce n'est pas Dieu qui a pu vouloir cet abîme de détresse et de laideur, d'injustice et de cruauté dont il est mystérieusement la première victime. 1935. Ça garde toute sa vigueur prophétique. Donc, quand l'homme est victime, Dieu est victime. Quand l'homme n'est pas aimé, Dieu, a fortiori, n'est pas aimé. C'est même le pire effet pour Zindel de l'énigme du mal, que Dieu ne soit pas aimé. Et c'est pourquoi Saint François et ses disciples s'en allaient par les routes de l'Ombrie en pleurant sur ces mots « L'amore non è amato ». Donc Dieu souffre. Est-ce une imperfection ? Pour les disciples d'Aristote, certainement, puisqu'en sa perfection, Dieu serait impassible. Mais alors, il serait si extérieur qu'il ne saurait susciter aucun intérêt. Au contraire, cette souffrance solidaire, de communion, est l'une des nuances nobles et nécessaires de l'amour. En cette conviction, Zindel se trouve rejoint par de nombreuses personnes, dont beaucoup vécurent de près ou de loin les affres d'Auschwitz et les autres exactions nazies contre les Juifs. Dans son dernier livre, Boris Cyrulnik est un Juif, comme vous savez, écrit tout simplement « Quand le mal existe, Dieu souffre ». Ne rejoint-il pas d'ailleurs une des profondes traditions du Premier Testament où Dieu, au buisson ardent, dit à Moïse « J'ai eu les entrailles toutes retournées en voyant la misère de mon peuple ». Le séisme de la Shoah a conduit des penseurs et des poètes à poser la question de Dieu à frais nouveaux. Étonnamment, ils rejoignent les convictions de Zindel sur le Dieu innocent et le Dieu première victime, conviction écrite avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais finalement, est-ce si étonnant dans le même esprit ? Hans Jonas, philosophe juif, dans une conférence sur le concept de Dieu après Auschwitz, se demande comment penser Dieu après la Shoah. Citation. « Qui est ce Dieu qui laisse exterminer plus de 5 millions d'hommes, femmes et enfants de son peuple, la prunelle de ses yeux ? Qui permet la monstruosité sans intervenir, qui reste silencieux comme absent. Peut-on encore imaginer qu'il est un Dieu d'amour ? » Et Hans Jonas de répondre, « S'il n'est pas intervenu, ce n'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne le pouvait pas. » Et il en conclut, « Dieu est souffrant, Dieu est en devenir, Dieu est soucieux, mais surtout Dieu n'est pas tout puissant. » À la manière de Zindel, je pourrais dire Dieu souffrait avec les victimes du nazisme. Il souffrait en elles. Et poser deux questions. Comme Auschwitz ne saurait être le dernier mot, que peut faire Dieu pour un avenir ou un devenir ? On en parlera un peu plus bas. Et l'autre question, comment revisiter la notion de la toute-puissance de Dieu ? Parce que je pense qu'il y a une toute-puissance, mais très différente de ce qu'on avait imaginé, souvent. L'écart est grand, en effet, entre le Dieu souffrant par amour et la manière courante de concevoir la toute-puissance de Dieu. Pour le dire dans le langage de Zindel, cette toute-puissance est vue de manière pharaonique. Dieu est le créateur de tout. Mais dans cette manière de voir la création, la puissance est perçue, mais l'amour ne l'est guère. De ce fait, il est le maître souverain, l'ordonnateur de tout, l'omniscient qui peut intervenir d'une façon dont l'arbitraire n'est pas absent. Alors, pourquoi donnerait-il à l'un et pas à l'autre ? Pourquoi n'intervient-il pas pour que cesse la guerre, l'oppression, la cruauté, la persécution? Un tel Dieu est irrespirable, car il est contraire à ce que l'homme fait à l'image de Dieu, à de plus noble, l'amour, la compassion, le partage. La tragédie nazie a fracassé cette manière de voir. Dieu est présent, certes, mais autrement. Interventionniste d'en haut et de l'extérieur, il ne peut pas l'être. Car le Dieu d'amour, quand il a affaire à des êtres capables d'aimer, ne peut passer que par les cœurs. Dieu est présent, mais par l'intérieur. C'est là seulement qu'il peut agir dans le respect des libertés qui peuvent prendre, hélas, des tours infiniment tragiques. La puissance de l'amour de Dieu est grande, mais elle peut être réduite à la toute faiblesse quand l'amour n'est pas accueilli. Eti Hillesum, morte à Auschwitz en 1943, a compris avec grâce l'enjeu de la présence intérieure de Dieu. Citation. « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Tu ne peux pas nous aider, mais c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. » Et Dietrich Bonhoeffer, pasteur protestant, condamné à mort par les nazis en 1945, écrivait « Seul un Dieu faible peut nous venir en aide. Un Dieu intervenant d'en haut, à main forte et à bras étendus, utiliserait finalement le même procédé, le même type de procédé que les fauteurs de guerre, avec plus de justice et de subtilité sûrement, mais dans la même sorte de logique. Le Dieu faible de bonne affaire passe par d'autres chemins, par les cœurs, encore une fois. Est-ce à dire que la toute-puissance n'existe pas du tout et que nous n'aurions affaire qu'à un pauvre Dieu qui aurait les mains complètement liées, un Dieu de la toute-impuissance, comme il a pu être écrit? Mais si c'était le cas, ce Dieu-là serait pathétique et il n'aurait rien à nous offrir et, à la limite, il n'aurait guère d'intérêt. Le contrepoids d'amour. Mais ce n'est pas le cas, car Dieu est tout-puissant en amour et les chemins de sa force passent par les voies de l'amour. Creusant dans ce sens avec une grande cohérence, Zundel est convaincu que Dieu offre un contrepoids d'amour au mal. Non seulement Dieu est innocent, non seulement il est victime et même première victime du mal par solidarité d'amour, mais encore il a une ouverture d'avenir à offrir envers, contre tout, à travers tout. Comment est-ce qu'il s'y prend? Zundel recourt pour l'expliquer à un épisode de la vie de Saint Jean de la Croix. Alors vous savez que Saint Jean de la Croix a été enfermé par ses frères dans la prison du couvent de Tolède parce qu'il était soupçonné, disons, d'un excès de réformisme. Et donc, mis en prison injuste. L'attitude de Saint Jean de la Croix, c'est « J'ai continué à offrir de l'amour pour qu'un jour l'amour vienne répondre à l'amour. » C'est exactement ce que fait Dieu. Continuer d'offrir l'amour. Alors, je suis convaincu qu'il le fait constamment dans le secret des cœurs, car Dieu est Dieu et il ne saurait assortir d'éclipse son offrande de réconciliation, de pardon, de paix et de joie. Mais cette offre de Dieu est difficile à percevoir et à comprendre dans un monde décréé par le mal. Et c'est pourquoi Dieu a pris la peine de nous la révéler en Jésus-Christ. Il a pris la peine de contrebalancer la décréation progressive que le mal a provoquée par une recréation de l'intérieur, donc par une autre voie. Toute la vie de Jésus, Fils de Dieu, est donc révélation de la miséricorde de Dieu au sein d'un monde disloqué et d'une humanité divisée. Et trois moments paraissent particulièrement importants aux yeux de Zindel. La naissance d'abord, dans la pauvreté de Bethléem. Jésus, en toute innocence, plante sa tente au milieu des hommes. C'est l'amour donné par les bras ouverts du petit enfant, comme l'a si bien compris petite sœur Madeleine, fondatrice des petites sœurs de Jésus. Et c'est l'amour si fort et si fragile qui a besoin d'être accueilli. Claudel l'a vivement compris un soir de Noël sous les voûtes de Notre-Dame de Paris, quand il se laisse rencontrer par l'innocence déchirante et l'éternelle enfance de Dieu. Il est à remarquer que l'amour ici s'offre sans aucun moyen de puissance, mais avec l'humble clarté d'un regard d'enfant. Le lavement des pieds. Par ce geste, dit Zindel, Dieu s'est comme agenouillé devant l'homme. Une ultime fois, Jésus signifie l'humilité de l'offrande de l'amour. Une ultime fois, il invite l'homme à accueillir cet amour fou qui va se donner jusqu'au bout. La croix, enfin, plantée dans tous les creux de la terre, au sommet du Golgotha, Jésus, pleinement homme et pleinement fils de Dieu, obéit à l'homme jusqu'à l'ultime recoin des libertés égocentrées qui nie à la fois Dieu et l'homme et qui tue. Sa mort infamante montre jusqu'à l'extrême l'horreur de l'énigme du mal. Mais aussi, Jésus obéit totalement à son Père. En ce sens qu'il offre l'amour jusqu'au bout et même au-delà du bout, dans un cri déchirant d'innocence et dans un souffle de réconciliation. Cette obéissance dévoile le consentement du Fils à la volonté ultime du Père qui est encore et encore d'aimer au-delà, au-dedans de tout. Mais aussi, cette obéissance de Jésus réalise le consentement plénier de l'homme à l'amour de Dieu. Nos assentiments sont partiels, biaisés, frelatés, en même temps que parfois aussi généreux. Jésus, pour sa part, est pleinement accordé à l'amour du Père. Pas de repli sur soi, pas de repli captatif en lui, un seul et unique élan de son être vers le Père. Et donc par ce double mouvement d'obéissance se trouve réalisé, noué en la personne de Jésus-Christ, la pleine et parfaite union entre l'homme et Dieu. Ce qui n'était qu'ébauché avec le premier homme et qui devint perverti par la défiguration de l'alliance se trouve ici pleinement accompli et ouvre un avenir nouveau à l'humanité. La croix n'est donc pas que la révélation de l'amour fou de Dieu. Elle est bien plus que cela. Elle est, disent-ils d'elle, le contrepoids d'amour à l'énigme du mal. Elle noue la réconciliation entre l'homme et Dieu. Il faudrait tant de chemins pour exprimer une vérité si profonde et si mystérieuse. Quelques évocations. D'abord, Zindel aime beaucoup citer un passage vertigineux de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. » 2 Corinthiens 5, 21. Autrement dit, l'innocent a pris sur lui toutes les décréations dont l'homme est fauteur. Sur la croix, avec son innocence, il les a engouffrées dans la puissance de la miséricorde de Dieu, et par cette innocence de l'amour infiniment donné, les fauteurs, c'est le contrebalancement, se retrouvent justifiés, réconciliés, remis dans la vérité de l'alliance et de la nuptialité. Mystère, mais dans la cohérence de l'amour innocent, co-souffrant et toujours en état de don. Encore Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 5, il écrit qu'en Adam, le mal est venu dans le monde. Autrement dit, la décréation est venue par l'homme. Mais de façon beaucoup plus appuyée, il affirme « Combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude ?» Autrement dit, la toute-puissance de la réconciliation est bien plus importante et fondamentale que la puissance de la création, puisqu'elle renouvelle, reconstruit, refait dans l'amour. Cette toute-puissance de la réconciliation est réalisée et signifiée dans la résurrection du Christ, car la mort du Christ, paradoxalement, est une ouverture vers la plénitude de la vie. C'est pourquoi Saint Jean de la Croix comprenait dans sa prière qu'au moment du passage de la mort vers la vie, Jésus murmurait « Alléluia ». Le chemin vers Dieu s'était perdu dans les méandres du mal, il fallait le chercher à tâtons. Voici qu'en Jésus, il est ouvert à nouveau pleinement et offert à tous ceux qui peu ou prou consentent à l'amour. Le contrepoids d'amour se réalise donc dans la mort et la résurrection du Christ. L'énigme du mal, dès lors, n'est pas une fatalité obscure et définitive, elle est soulevée de l'intérieur des cœurs aimants vers la plénitude de la vie. Dieu innocent, Dieu souffrant, n'est pas le tout impuissant, mais sa puissance est tout autre que ce que les hommes ont trop souvent imaginé. Sa puissance vient de l'amour et emprunte les chemins de l'amour. Elle ne saurait d'ailleurs faire autrement. Elle est d'une force bouleversante, puisqu'elle peut faire passer de la mort à la vie, de la ténèbre à la lumière, de la perdition au salut. Mais, si forte qu'elle soit, elle demeure fragile, puisqu'elle se vit encore et toujours dans l'alliance et la nuptialité. Elle est donc sans cesse remise dans les mains des partenaires de l'alliance, avec force, avec constance, avec patience, mais dans l'attente du oui de la liberté des hommes. C'est pourquoi on peut comprendre cette parole étonnante de Zindel. Il faut sauver Dieu. Eti illesum a dit pareil dans le camp de concentration de Westerbork. Quelle magnifique communion dans l'esprit. Sauver par le don de nous-mêmes, la présence d'amour de Dieu dans le cœur des hommes, pour qu'un jour, dans toute l'humanité et dans tout le cosmos, l'amour vienne répondre à l'amour. L'énigme du mal est contrebalancée par le don, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, de l'amour de Dieu. Mais ce don est remis entre nos mains pour que nous soyons arrachés à l'obscurité. Dieu sauve l'homme. Il faut sauver la présence de l'amour de Dieu. C'est notre vertigineuse mission. Merci de votre attention.
Merci, mon Père, de nous avoir tracé un chemin pour tenter, nous aussi, et à notre tour, de résoudre cette énigme qui s'adresse à nous, à chacun et à chacune d'entre nous. À travers ces trois chapitres, Dieu innocent, Dieu victime et le contrepoids. Ce contrepoids qui est une nouvelle création, c'est le nouvel Adam, comme vous le laissez pressentir à travers la conclusion de votre conférence.